Bienvenue au Mâche Patate, le podcast éclaté des urbainculteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité.
Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités
et on se fait aller Mâche Patate!
Bonjour tout le monde, bienvenue à Mâche Patate, le podcast des urbainculteurs. Je me nomme Marie-Andrée Asselin et comme toujours, je partage le micro avec Marie-Hélène Dubé. Salut Marie!
Salut, ça va bien?
Oui, oui, je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Puis là, avant de commencer, on voulait s'excuser parce que malheureusement, là, on a sauté un épisode. Là, vous vous dites qu'on est au mois de novembre puis que les jardins sont fermés puis c'est relax. Mais nous, en fait, on fait beaucoup de rattrapage à ce temps-ci de l'année. Donc, toutes les réunions qu'on n'a pas eu le temps de faire en saison, les bilans, la projection sur l'année qui suit, on est toujours finalement vraiment occupés. Donc, on s'excuse, mais là, on est là aujourd'hui puis c'est ça qui est important. Puis d'ailleurs, pendant que j'ai la parole, je ne sais pas si vous avez remarqué deux choses. Premièrement, j'ai le rhume, donc je m'en excuse si je parle un petit peu bizarre aujourd'hui, mais en théorie aussi, vous avez un meilleur son parce que c'est à mon tour, j'ai maintenant un nouveau micro, donc j'espère que vous allez pouvoir en profiter.
Oui, puis ben aujourd'hui, on va aborder enfin un sujet de premier plan. Un sujet, je pense, qui soulève parfois les passions, peut-être qui dérange certaines personnes et qui peut faire peur, mais c'est clairement un sujet qui nous touche tous. Et je parle évidemment des changements climatiques. On se lance là-dedans.
Oui, tout à fait. Puis quand on parle de changement climatique, bien, j'ai souvent l'impression qu'on ramène beaucoup ça à l'individu en recommandant des pratiques à adopter pour réduire notre empreinte écologique, comment faire pour décélérer la progression des changements climatiques, comment faire partie de la solution, un peu comme si on pensait encore qu'on était avant ces fameux changements. Je pense que ces pratiques sont tout à fait légitimes puis ont leur raison d'être, mais la réalité, c'est pourtant quelque peu différent. En fait, on vit présentement ces changements, puis à certains égards, il est plutôt difficile de renverser la vapeur. La roue du changement tourne, puis certaines choses changent définitivement, puis on doit maintenant s'adapter à cette nouvelle réalité. En tant qu'individu, puis comme société, bien, comment est-ce qu'on s'adapte? Puis les municipalités, elles, comment évoluent-elles dans cette nouvelle réalité? C'est des multiples et complexes questions qui valent la peine qu'on s'y penche de plus près.
Oui, puis dans le cadre, quand on parle d'agriculture urbaine, d'ailleurs, c'est souvent cité parfois comme un moyen d'adaptation face à ces changements parce que on le sait, ça réduit, entre autres, ça peut participer, en fait, à réduire les îlots de chaleur ou à capter les eaux pluviales, même à assainir l'air. Puis c'est évidemment une consommation locale d'aliments. Et puis c'est donc des moyens qui sont effectivement bien intéressants, mais il serait réducteur de croire que l'agriculture urbaine, c'est la seule adaptation possible, évidemment, pour les villes. Et puis, comme vous pouvez vous en douter, en fait, il y a des chercheurs qui mettent du temps et de l'énergie à colliger des données sur l'adaptation possible. Puis, depuis 2014, il y a l'Observatoire québécois de l'adaptation au changement climatique qui se consacre justement à améliorer notre connaissance collective sur le sujet. Fait qu'afin de mieux comprendre en quoi consiste concrètement leur recherche, peut-être même voir comment on s'adapte déjà au Québec. En tout cas, on reçoit aujourd'hui Johan Jacob, qui est professionnel de recherche au sein de l'OCAC, donc l'Observatoire québécois de l'adaptation au changement climatique, ainsi que candidat au doctorat en mesure et évaluation à l'Université Laval. Bonjour Johan, bienvenue à Mâche Patate.
Merci, bonjour.
Merci de prendre le temps de discuter avec nous.
En introduction, on a mentionné l'Observatoire québécois de l'adaptation... Voyons, je recommence. Mon nez me joue des tours. Oui. En introduction, on a mentionné que l'Observatoire québécois de l'adaptation au changement climatique existe depuis 2014. Puis j'avoue moi-même que j'ai découvert cette organisation-là dans le cadre de l'élaboration du podcast. Donc, je me demandais si tu pourrais nous expliquer d'où vient cette initiative et surtout, qu'est-ce que vous étudiez plus précisément?
Oui, bien, d'abord, merci de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir de participer au podcast Mâche Patate. En fait, l'OCAC, ben, c'est ça, comme vous l'avez dit, ça existe depuis 2014, mais peut-être plus activement 2015. À l'origine, c'est un financement qui a été obtenu auprès de l'Institut national de santé publique, l'INSPQ, pour justement développer un observatoire sur l'adoption de comportements d'adaptation en lien avec des aléas chaleur et inondation, qui étaient les deux grands aléas qui étaient, disons, le sujet ou l'intérêt des travaux qui étaient faits à l'OCAC. Donc, c'est ça, vu que c'est un financement de l'INSPQ, donc c'est dans une perspective de santé publique. Donc, de voir en quelle mesure, au niveau individuel, s'il y a des comportements, prévention, par exemple, aux vagues de chaleur, les inondations sont adoptées pour faire un suivi dans le temps. Donc, c'est une des particularités des recherches qu'on fait ici, c'est On est à la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université Laval. Mais en fait, c'est qu'on, nous, on développe des indices de mesure. Un peu comme de la même façon, c'est qu'on développerait, par exemple, des examens où on peut mesurer, par exemple, l'acquisition des compétences, tout ça. Ben, quand on développe des outils de mesure, on veut s'assurer que ce qu'on mesure est fidèle et valide. Donc, tu sais, c'est là son intérêt, tu sais, de vraiment développer des indices dans lesquels on s'assure que, tu sais, quand on mesure les comportements d'adaptation, ben, tu sais, qu'on mesure les bons comportements pour pouvoir faire un suivi dans le temps. Donc, ça, c'est un des aspects. L'autre aspect, c'est aussi de comprendre pourquoi, au niveau individuel, ce genre de comportements-là sont adoptés. Ça, c'est l'autre lien avec l'éducation. C'est qu'une fois qu'on peut identifier, par exemple, s'il y a certaines croyances qui sont associées avec l'adoption ou la non-adoption de ces comportements-là, ben, on peut, en identifiant ces croyances-là, essayer de développer des interventions pour modifier ces croyances-là. Donc, par exemple, l'éducation, par des programmes de formation ou des communications publiques. Donc, ça, c'est aussi, tu sais, la raison pour laquelle l'INSPQ est intéressée par ce qui se faisait ici. C'était justement dans cette perspective-là de pouvoir identifier des leviers sur lesquels eux, ils pouvaient intervenir, sur lesquels ils pouvaient comme baser leurs interventions, là, en sachant, par exemple, que si, par exemple, c'est l'adoption de comportements préventifs avec les vagues de chaleur, c'était associé, par exemple, avec... les gens ne faisaient pas le comportement parce qu'ils ne voyaient pas nécessairement d'avantage ou parce qu'ils voyaient des barrières qui étaient à l'adoption de ces comportements-là. Ben, on peut, c'est ça, justement, identifier des interventions, c'est pour venir spécifiquement essayer, c'est de travailler sur ces aspects-là. Donc, c'est ça un peu le genre de recherche qu'on fait, puis aussi au niveau organisationnel, donc au niveau des municipalités.
Tu as parlé de la chaleur et puis des inondations surtout, puis je comprends que c'est comme né de ça. Puis présentement, il y a aussi les thématiques de l'allergie au pollen puis de la maladie de Lyme, à ce que j'ai compris. Là, je vois le lien avec la santé, là, que c'est financé par l'Institut national de santé. On se demandait un peu pourquoi c'était ces quatre thématiques-là, puis comme c'est peut-être pas les premières choses qu'on va penser en pensant au changement climatique, disons, là, l'allergie au pollen, par exemple. Est-ce que tu peux juste nous parler du lien un petit peu rapidement?
Ouais, c'est ça. C'est vrai que aussi, tu sais, avec le temps, ben, on a développé d'autres indices de mesure, mais tu sais, en lien avec d'autres aléas. Donc, encore une fois, tu sais, par rapport aux préoccupations en santé publique, tu sais, en lien avec les changements climatiques, donc la maladie de Lyme était une de ces préoccupations-là, justement avec les changements climatiques amenaient comme les tiques qui sont porteuses de la bactérie qui amène la maladie. Donc, avant, elle était moins présente au Québec. Maintenant, elle est endémique là, dans toutes les régions du Québec. Donc, ça, cet intérêt-là, c'est de voir qu'il y a certains comportements qu'on peut faire à titre individuel pour se protéger de la maladie de Lyme. Donc, on a développé des indices pour justement essayer de voir dans quelle mesure la population, surtout dans les régions où c'est beaucoup plus répandu, dans quelle mesure ces comportements sont adoptés, puis quels sont les facteurs qui peuvent favoriser l'adoption de ces comportements-là. Puis aussi, on fait des études aussi sur le pollen. La même chose, dans le fond, à chaque fois, c'est des comportements préventifs, dépendamment des aléas, vont être un peu différents. L'intérêt, c'est de développer des indices qui sont basés sur des comportements en lien avec les aléas. On travaille beaucoup en collaboration avec des spécialistes de ces aléas-là. Donc, c'est ça. Donc, par exemple, avec des allergologues, avec des vétérinaires qui sont spécialisés de la maladie de Lyme.
Je me demandais, là, peut-être que c'est une question un peu niaiseuse, mais est-ce que les changements climatiques, c'est été prouvé que ça a comme augmenté les allergies déjà? C'est les maladies de Lyme, je l'avais comme un peu compris, mais on dirait que le pollen, je voyais pas comment les changements climatiques avaient pu influencer justement les allergies. C'est comme nouveau pour moi de voir ça.
C'est sûr que je ne me considérais pas un spécialiste là, du pollen, là, mais en fait, le lien avec les changements climatiques, c'est que avec la température qui sont plus élevées, sur les plants qui relâchent le pollen allergène, ce sont en plus grande quantité. Il y en a plus, disons, dans le surtout dans le périmètre urbain. Donc, en ayant plus, il y a plus de pollen allergène dans l'air. Donc, les personnes qui sont sensibles au pollen, c'est sûr, ils vont être davantage exposés là, au pollen. Donc, le lien avec les changements climatiques, il se situe à ce niveau-là.
on va juste prendre un petit pas de recul, mais on l'a un peu expliqué en intro, tu sais, essayer de faire la distinction entre que l'on parle d'adaptation au changement climatique, mais je pense que c'est peut-être pas clair pour tout le monde comment on distingue quand on parle d'atténuer les changements climatiques ou de s'adapter au changement climatique. Fait que peut-être juste pour jeter les balises claires là, pour la suite de la discussion, peux-tu comme bien nous distinguer les deux?
Disons, la différence majeure, c'est que, bon, on peut comme... En atténuation, il y a peut-être c'est sûr, il y a beaucoup d'actions qu'on peut faire pour atténuer les changements climatiques, mais bon, c'est quand même... Ça conscrit pas mal à un domaine, c'est d'essayer de réduire l'empreinte carbone. Tandis que s'adapter, bien, c'est toujours très contextuel. C'est dépendamment, c'est bon... quelles sont les vulnérabilités? Donc, est-ce qu'on est plus vulnérable à un aléa ou bon, la chaleur, les inondations ou à d'autres aléas en fonction de ça, donc justement, puis en fonction aussi de, comme je disais, les certaines caractéristiques socio-économiques, ben, on peut être davantage à risque. On va peut-être devoir privilégier certaines actions ou agir à certains niveaux plutôt qu'à d'autres niveaux. Donc, c'est toujours un peu. L'univers des mesures d'adaptation est quand même assez diversifié. Mm-hmm.
Puis justement, pour peut-être, est-ce que tu aurais des exemples? Je ne sais pas si tu en aurais un par thématique, mettons, là, d'études sur des mesures d'adaptation qui ont été observées ou qui sont particulièrement efficaces. Je ne sais pas si efficace serait le bon terme.
Efficace, c'est toujours, bon, ça dépend toujours, tu sais, pour l'évaluer, là, tu sais, pour voir si ça réduit effectivement la vulnérabilité ou si ça répond, dans le fond, aux impacts, tu sais, qu'on attendait, là, tu sais, en adoptant cette mesure-là. Mais mettons, par exemple, là, tu sais, pour donner des exemples très, très concrets là, de mesures d'adaptation à la chaleur, bien, tout ce qui concerne, par exemple, là, l'installation de toits verts, matériaux réfléchissants pour justement améliorer le confort thermique dans une installation, dans un bâtiment. Ça peut être un exemple de mesure d'adaptation à la chaleur. Ça peut amener plusieurs co-bénéfices. On améliore le confort thermique en même temps. Peut-être on utilise moins de climatiseurs, donc notre empreinte carbone peut être amoindrie de cette façon-là. Donc, on peut identifier souvent plusieurs impacts positifs qui sont nécessairement pas toujours en lien avec le même aléa. Bon, tout ce qui concerne également là, de planter des arbres, là, on crée des zones d'ombre là, pour lutter contre les îlots de chaleur. Ça, c'est des exemples là, d'interventions que les municipalités peuvent faire, développer des espaces verts, des parcs, des plans d'eau, des fontaines, des jeux dans les parcs ou des journées où il fait très chaud. Puis en même temps, ça, comme on le disait aussi, ça peut avoir des bénéfices qui ne sont pas nécessairement en termes de, d'adaptation, mais qui contribuent justement à au niveau social, par exemple, c'est à la cohésion, ça donne justement, c'est un lieu de rassemblement.
Comme une solution qui amène plusieurs bénéfices d'un coup, dans le fond.
Oui, exactement.
Est-ce que c'est surtout, dans le fond, au niveau de l'aménagement du territoire que se passent les actions possibles des villes ou comme est-ce qu'il y a d'autres volets, disons, de la vie où ils sont en mesure d'influencer, finalement, notre adaptation dans les municipalités?
Ben, c'est sûr que l'aménagement, c'est un levier important que les villes peuvent avoir, là, dans le fond, lorsqu'ils font la planification de l'aménagement. Donc, ils peuvent identifier, par exemple, certaines zones. Bon, on a parlé tantôt d'implanter des espaces verts, des parcs, tout ça. Bon, tu sais, s'assurer aussi que essayer de. Avoir c'est quand même une certaine proximité, favoriser le transport actif. Ça c'est des décisions qui sont prises, c'est sûr, au niveau de la planification. C'est sûr qu'il y a quand même d'autres interventions. C'est bon, c'est juste végétaliser les fossés pour toute la planter de la végétation filtrante. Ça, c'est tout ce qui est lié, par exemple, aux services écosystémiques. Ça, par exemple, d'utiliser la végétation pour favoriser l'écoulement de l'eau, c'est faire en sorte là, que bon, réduire le risque d'inondation, protéger les milieux humides, par exemple. Là, donc, éviter là, d'autoriser des développements dans les milieux humides, s'assurer de conserver ces milieux-là pour justement aider là, qu'il y ait moins de risques d'inondation. Donc, ça, c'est des, oui, c'est des choses que les municipalités peuvent faire. Oui.
Mm-hmm. Puis l'idée derrière ça aussi, est-ce que c'est pas, ben, peut-être que je m'avance un petit peu trop loin par rapport à ça, mais de que vous colligiez une multitude de données justement qui prouvent que certaines choses fonctionnent bien pour servir de levier pour peut-être motiver d'autres municipalités ou d'autres organisations à adopter le même genre de pratique? Je sais pas. Peut-être...
Ouais. C'est sûr que donc, l'idée, en fait, de colliger ces données-là, c'est surtout c'est de faire un suivi. C'est de permettre de faire un suivi dans le temps pour voir les progrès qui sont faits au niveau des municipalités, voir est-ce que si on va dans la bonne direction, est-ce qu'il se fait plus d'adaptations qui s'en faisaient avant. Donc, c'est sûr que là, on a fait une fois une collecte là, jusqu'à présent, donc on a comme un temps 1, disons, là, mais l'idée, c'est de retourner à différents intervalles, voir si justement il y a plus d'adaptations qui s'en faisaient qu'au temps 1. Puis à chaque fois, c'est d'essayer de voir justement est-ce que les facteurs qu'on avait identifiés, c'est qui aidaient à l'adoption de ces pratiques d'adaptation-là, est-ce que c'est toujours les mêmes facteurs qui contribuent le plus à l'adaptation? L'idée, c'est pas de dire, bon, mais telle municipalité en fait, ou telle autre municipalité en fait pas assez, tu sais, puis de mettre en compétition ou de comparer les municipalités entre elles, puis de faire un classement des municipalités. Il y a toutes sortes de profils, tu sais, dans les municipalités. Tu sais, il y a des municipalités, tu sais, qui sont très proactives, là, tu sais, qui ont même des personnes qui sont officiellement responsables de l'adaptation, tu sais, puis on voit que, tu sais, dans les pratiques, il y a une préoccupation pour les changements climatiques qui est intégrée. Dans d'autres municipalités, par contre, ben, c'est sûr que peut-être pas nécessairement toutes les mêmes, les mêmes ressources. Fait que c'est sûr que si, dans le fond, c'est par nos outils, par les questionnaires qu'on envoie, ben, ça montre que voici, ça, c'est des exemples de pratiques d'adaptation qui peuvent être faites. Là, ben, c'est sûr que ça peut comme donner de ça peut donner de l'information, dire ben quoi, ça c'est vrai, c'est des choses qui existent, qui peuvent être faites au niveau de la municipalité. Puis c'est sûr que il faudrait voir avec le temps là, si ça a cet effet là
est-ce que vous avez déjà un temps fixé, comme une année, mettons, que vous savez que vous allez reprendre des données pour voir, pour mesurer ce progrès là?
Ben, en fait, justement, là, c'est ça, on est en train de planifier notre deuxième collecte de données. Donc, on avait fait une première collecte en 2016. Donc, normalement, ça devrait être lancé, on espère, avant Noël. Puis, ça va chevaucher peut-être début décembre. Puis, quand on peut comparer dans le temps, c'est notre instrument de mesure, ben, on peut voir si la variation qu'on observe, c'est vraiment dû à le construit qu'on essaye de mesurer, donc l'adaptation. Donc, si on voit qu'il y a plus d'adaptation qui est, par exemple, observée en 2022 qu'en 2016, nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que c'est parce qu'il se fait plus d'adaptation ou c'est juste parce qu'il y a des biais dans la mesure ou qu'on a de l'erreur de mesure.
On dirait que j'ai de la difficulté à imaginer comment on peut mesurer l'adaptation. Fait que je me demandais, c'était quoi justement ces indicateurs-là qui vous permettaient de vous faire une tête justement sur cette fameuse adaptation?
Oui, bien non, c'est une très bonne question. Nous, on essaie d'identifier des comportements, des pratiques. Si par exemple, on veut s'adapter aux vagues de chaleur, ben, concrètement, qu'est-ce que les municipalités font? Donc, on peut avoir un ensemble de comportements, de pratiques, puis on demande dans quelle mesure votre municipalité a, par exemple, installé des bandes de végétation pour aider aux inondations. Bon, ça, c'est un exemple d'indicateur. Mais après ça, c'est quand on peut avoir justement des indicateurs valides. Oui, il peut y avoir beaucoup d'indicateurs, beaucoup de comportements, beaucoup d'actions qui peuvent constituer de l'adaptation, mais notre but, nous, c'est d'identifier ceux parmi l'ensemble de ces comportements-là, ceux qui permettent vraiment de mesurer l'adaptation. C'est dans le fond, c'est des comportements qui sont liés entre eux, puis qui représentent l'adaptation comme construit. Donc, ça a l'air peut-être un peu abstrait, là, mais c'est la même façon que vous faites un examen. T'sais, on pourrait poser, je sais pas, 10 questions, mais peut-être que toutes les questions que vous allez poser seront peut-être. Il va peut-être y en avoir juste certaines qui vont vous permettre de reconnaître les élèves qui sont plus doués de ceux qui sont moins bien doués. Donc, par les analyses statistiques qu'on fait, ben, mais celle, justement, c'est de reconnaître parmi toutes les questions qu'on pose, celles qui nous permettent d'avoir une mesure valide. Mm-hmm. Donc, c'est ça un peu avec le temps aussi, on peut justement réduire le nombre de questions qu'on pose parce que on peut identifier des comportements qui nous permettent de reconnaître les municipalités qui s'adaptent de celles qui s'adaptent moins. Mm-hmm.
Mais c'est aussi, je me disais, une ville pourrait choisir d'avoir une politique très, très forte de verdissement qui est en quelque sorte une adaptation, mais qu'à la base, ce n'est pas lié à une problématique climatique, mais plutôt juste à un vouloir de verdissement. Et que là, je me demandais comment justement distinguer ces deux choses-là. Ça devient de l'adaptation par la bande, mais au départ, ce n'est pas nécessairement lié à un besoin.
C'est pas l'intention derrière. Ouais.
C'est ça, fait que c'est ça. Ben, peut-être que là, c'est moi qui rend ça trop complexe, mais c'est comme si j'avais de la difficulté à différencier les deux.
C'est une super bonne question. Puis, c'est ça aussi que... Je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de... C'est très complexe, tu sais, de mesurer l'adaptation.
Ben oui.
Parce que c'est une des observations qu'on a faites... Les municipalités, ils n'attendent pas nécessairement de faire tout un processus de gestion adaptative pour prendre certaines actions par rapport à l'implantation de parcs ou par rapport à la plantation de végétation. Mais ça reste que c'est des actions, comme tu l'as dit, qui sont qui peuvent constituer de l'adaptation. Donc, après ça, qu'est-ce qui est l'adaptation, qu'est-ce qui n'en est pas? Moi, je pense que ce n'est pas nécessairement ça la question qu'il faut se poser. T'sais, ce qui est important, c'est surtout d'avoir une idée de qu'est-ce que les municipalités font exactement. Si elles font de l'adaptation sans nécessairement appeler ça de l'adaptation, ben, tant mieux parce que sont proactives. Mais aussi, ce que ça montre aussi, c'est que ça, c'est plus peut-être pour le domaine de la recherche sur le suivi, l'évaluation de l'adaptation, c'est qu'il faut avoir des indicateurs qui, justement, c'est pas juste des indicateurs qui sont très orientés vers qu'est-ce qu'une municipalité qui s'adapte. Par exemple, c'est une municipalité qui a un plan d'adaptation, qui a un budget d'adaptation. On va voir ça dans des municipalités peut-être de plus grande taille, mais si on avait juste des indicateurs comme ça, ben, peut-être qu'on se retrouverait avec peut-être 5 municipalités sur les quelques municipalités du Québec qui répondraient oui à une question comme ça. Oui, on a un budget d'adaptation. On se dirait, il y a juste 5 municipalités sur à peu près 1000 qui font de l'adaptation, alors qu'il y a d'autres activités, d'autres actions que les municipalités peuvent faire. Donc, il faut justement c'est d'arriver à conceptualiser, à identifier ces comportements, ces actions d'adaptation pour essayer de faire un portrait qui est le plus juste possible, en sachant que c'est évidemment pas nécessairement parfait. On ne peut pas tout mesurer non plus.
J'allais justement dire, je me demandais si comme dans votre portrait, je comprends que vous ne voulez pas poser un million de questions, mais est-ce que aussi, en plus de vous intéresser à quelles mesures d'adaptation sont en place, est-ce que vous posez la question avant, dans le fond, de est-ce qu'il y avait des problématiques dans cette municipalité-là déjà qui étaient liées, mettons, au changement climatique? En gros, est-ce que les mesures de la ville sont comme réactives face à un problème ou sont vraiment préventives?
On ne pose pas ça comme ça, mais on demande est-ce que, par exemple, ils ont fait une cartographie, comme je disais, c'est ça, une cartographie de leur risque, est-ce qu'ils ont identifié, par exemple, s'ils ont fait des études sur leurs aléas, est-ce qu'ils ont consulté de l'information, est-ce qu'ils ont passé des contrats, par exemple, avec des chercheurs pour faire un inventaire de leur vulnérabilité sur ce stand.
Puis, Je me demandais, je ne sais pas si tu as le droit de le dire, mais c'est un sondage. Est-ce que c'est obligatoire ou c'est au bon vouloir des municipalités?
Non, c'est au bon vouloir des municipalités.
Est-ce que vous aviez eu une bonne réception?
Bien, je dirais oui, dans le sens où, ben, je pense que c'est très, très rare là, des fins de non-recevoir. C'est ce qui est surtout la contrainte, c'est beaucoup la disponibilité et le temps là, que les gens peuvent mettre. Là, c'est la même chose avec... quand on fait des sondages dans les organisations, c'est souvent... Oui, les municipalités sont quand même souvent sollicitées, ont beaucoup de réditions à faire au gouvernement. Ce sont un peu les échos qu'on a. C'est pour ça qu'on essaie de trouver comme un juste équilibre, c'est de ne pas trop en demander c'est que ce soit favoriser un bon taux de réponse. Ce qui est un peu la différence avec les enquêtes plus au niveau de la population qu'on fait. Parce que là, on travaille avec des firmes de sondage où, tu sais, là, dans le fond, on peut avoir les échantillons qu'on souhaite avoir. On peut travailler avec des plus grosses bases de données. Donc, c'est sûr que ça facilite les analyses qu'on fait là, pour développer nos indices. Là. Mais oui, c'est ça. Les municipalités ne sont pas obligées. S'ils participent, c'est volontaire. Là.
Là, je sais que tu disais que ce n'est pas un sujet que vous avez comme vraiment étudié comme tel, mais comme nous, on parle d'agriculture urbaine en général, je me demandais quand même un peu comment tu voyais le rôle de l'agriculture urbaine, dans le fond, dans l'adaptation des municipalités en général, comment ça se situe?
C'est sûr que l'agriculture urbaine, ça, c'est lié justement avec améliorer la résilience par rapport à ne serait-ce que de permettre d'avoir si vous avez des zones dévitalisées ou des aires alimentaires ou des endroits qui ont peut-être moins accès à des produits frais, l'agriculture urbaine peut aider par rapport à ça, par rapport aussi à d'avoir plusieurs sources pour avoir des denrées, donc pas simplement juste se fier à une source. Donc, on avait vu avec la pénurie de certains produits qu'il y a eu pendant la COVID, là, je pense pas qu'on puisse nourrir toute la population avec l'agriculture urbaine, mais en même temps, ça donne d'autres alternatives, d'autres options. Puis ça permet également peut-être de penser aussi plus en termes de répondre à nos besoins immédiats, d'avoir une certaine proximité aussi avec les produits qu'on veut consommer. Puis aussi, c'est ça, d'avoir aussi, en utilisant par exemple des terrains qui seraient en friche, là, mais en les aménageant pour l'agriculture ou même en plantant de la végétation, tout ça, ça peut avoir des. On l'a expliqué depuis peut-être le début, là, ça a quand même des effets importants là, pour réduire l'impact des, par exemple, des vagues de chaleur, ça peut de capter les eaux de surface également pour éviter des problèmes pour les inondations. On cherche à réduire la vulnérabilité, on cherche à améliorer la résilience.
Mm-hmm. Mais là, je me demandais, tu n'es pas obligé de répondre, mais est-ce qu'il y avait une question, justement, mettons qu'on pourrait imaginer que l'agriculture urbaine fait en partie, et comme en partie dans l'adaptation au changement climatique, est-ce qu'il y avait comme des questions qui étaient liées à des projets d'agriculture urbaine dans votre sondage?
Pas directement.
Pas spécifiquement, OK.
On avait des questions sur les infrastructures vertes et les circuits systémiques. Si on prend l'agriculture urbaine dans son sens le plus large,
oui, là, tout à fait.
Ça peut peut-être donner une idée quand même. Mais par exemple, la végétation filtrante, vous voyez, si on avait 139 municipalités, donc il y en avait 19 qui avaient adopté cette pratique-là. Donc, c'est un peu moins de 14 % des jardins d'eau. Ça, c'était aussi un autre type de mesure d'adaptation. On avait 12 % des municipalités de notre échantillon qui avaient cette mesure d'adaptation-là. Ça pourrait être intéressant, en effet, d'intégrer ça dans notre collecte de données pour justement avoir ils ont un portrait là, de ce qui peut être fait à ce niveau-là.
Mais c'est sûr qu'on est des convaincus.
Oui, c'est ça.
Go, go, go.
Oui, c'est ça. Je suis là. Allez, ajoute-le à ta question.
Ah ouais,
ben, juste pour nous, en fait, des fois, juste pour voir si ça serait intéressant. Mais non, mais je comprends globalement, l'agriculture urbaine, c'est comme ça fait partie de quelque chose de plus grand dans le verdissement des villes. Tu sais, c'est ça. On n'est pas obligé de tout distinguer non plus.
Mais en même temps, c'est ça. Tu sais, comme on le dit depuis tout à l'heure, il y a quand même des retombées positives pour l'adaptation également. Donc, ça pourrait tout à fait être pertinent. Là, de...
Ben écoute, donne bien qu'on se parle juste avant votre prochaine prise de données.
Oui, tout à fait.
On va pouvoir éventuellement avoir un suivi.
On va le tenir au courant, là, c'est certain.
Bon. Super. Ben, merci beaucoup, Johan, vraiment,
beaucoup,
pour ton
Johan.
Temps.
Ben, merci, ça me fait plaisir et j'espère que ça a été... d'informations pertinentes là, pour vos auditeurs.
Assurément.
Oui, parfait.
Donc, on remercie encore une fois Johan pour sa belle intervention. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est que je réalise que même si l'intention derrière nos actions n'est pas nécessairement de s'adapter à des changements climatiques, bien naturellement, les individus ou les organisations comme les municipalités, je m'excuse, s'adaptent. Donc, ça m'a quand même fait un petit baume au cœur de réaliser que malgré tout, on s'en va vers cette voie-là, puis que c'est pas... pour moi, l'adaptation, c'était beaucoup face à une contrainte forte. Donc, là, c'était le fun de voir que finalement, on s'adapte au quotidien sans même trop en vivre les contre-coups, finalement.
Mm. Puis on n'a pas besoin d'avoir un problème d'en face pour s'adapter. C'est de la prévention.
C'est ça, tout à fait.
Oui. Puis d'ailleurs, en tout cas, hein, nous, on vous encourage à faire de l'agriculture urbaine parce que ça a plein d'avantages. Mais voilà. D'ailleurs, si vous nous écoutez et que vous travaillez justement pour une municipalité, ben, maintenant, vous savez que si vous recevez un formulaire sous peu, on vous encourage vraiment à le remplir parce que ça va aider la collecte de données à ce sujet-là. Puis si aussi ben, vous travaillez pour une municipalité qui a vraiment justement peut-être des pratiques exemplaires d'adaptation ou comme quelque chose dont vous êtes fier et que vous aimeriez mettre de l'avant, ben, n'hésitez pas à nous écrire. On pourrait voir là, si soit il y a sujet à épisode ou on pourrait peut-être en parler en tout cas sur nos réseaux sociaux. Donc, vous pouvez nous écrire à mâche-patate@urbainculteur avec un S à la fin, .org. Puis d'ailleurs, même adresse courriel, donc mâche-patate@urbainculteur.org. On vous invite aussi, les auditeurs et auditrices, là, à nous écrire hein, si vous avez des suggestions de sujets, des idées d'invités. On est toujours preneurs. Puis on se demandait aussi peut-être que là, on est rendu à l'épisode 72 quand même. Mm-hmm. Fait peut-être qu'il y a des sujets qu'on a abordés depuis le début, des initiatives, des projets dont vous aimeriez avoir comme un suivi, savoir où ils en sont rendus. Fait que peut-être vous pouvez nous écrire à ce sujet-là, puis nous, on va s'engager à vous redonner des petites nouvelles là, sur les sujets qui vous intéressent dans un futur épisode.
Oui, tout à fait. Moi, j'aimerais ça faire cette recherche-là d'ailleurs. Puis, en terminant, bien, on vous rappelle que Mange Patate, c'est une réalisation des Urbainculteurs, qui est un organisme à but non lucratif qui œuvre à développer et promouvoir une agriculture urbaine productive, accessible et responsable. Il s'agit d'un projet qui est financé par nos autres volets d'activité et par l'adhésion de nos membres. Donc, un gros merci de votre soutien. Sur ce, on se reparle dans 2 semaines. Bye bye!
Salut!